Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le président vénézuélien Nicolas Maduro rejette l'ultimatum que lui avaient fixé plusieurs pays de l'Union européenne. Il écarte l'hypothèse d'une nouvelle présidentielle et laisse par là même l'opposant Juan Guaido prendre plus d'initiatives et avoir davantage de soutien. Analyse du point de vue de l'Union européenne et de Caracas dans un instant.
Et puis nous joindrons ensuite notre envoyé spécial à Abu Dhabi auprès du pape François. Il est le premier souverain pontife de l'histoire à fouler le sol de la péninsule arabique.
L'idée d'un référendum en France ferait son chemin à l'Élysée pour mettre fin à la crise des gilets jaunes. Il pourrait porter sur des institutions. Des critiques s'élèvent déjà dans l'opposition, vous le comprendrez. Après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Seitz reviendra justement sur les avantages et les risques d'un tel référendum.
Et puis avant cela, nous nous pencherons sur le succès de Facebook. 15 ans après sa création, le réseau social mise sur les données géographiques pour convaincre ses utilisateurs.
Vous entendrez enfin le témoignage de Mélina Bouguedi, française partie en Syrie et en Irak, détenue actuellement à Bagdad. Apparemment, on ne veut pas nous récupérer, dit-elle. Il n'y aura pas de présidentielle anticipée au Venezuela. En tout cas, pas de présidentielle organisée par Nicolas Maduro. Le président élu rejette l'ultimatum des Européens. Dans une interview à la télévision espagnole, il dit ne pas faire preuve de lâcheté face aux pressions, pressions donc européennes. En partie en tout cas, car seuls 7 pays de l'Union, la France notamment, avaient posé cet ultimatum. Faute de quoi, ils vont reconnaître l'opposant Juan Guaido comme président autoproclamé. On attend maintenant la réaction de ces pays européens. Déclaration commune ou soutien en ordre dispersé. La question n'est pas encore tranchée car comme souvent en matière de politique étrangère, les 27 peinent à s'accorder, Louise Baudet.
D'un côté, les pays qui refusent de tergiverser. Rompant avec la tiédeur de leurs alliés européens, ils ont lancé il y a 8 jours le fameux ultimatum balayé par Maduro d'un revers de la main. Il n'organisera pas de nouvelle élection présidentielle, mais veut plutôt dissoudre le Parlement acquis à ses opposants. Une farce tragique a lâché hier la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Un franc-parler qui masque mal les difficultés des Européens à s'accorder, car si 7 pays dont la France ont pris clairement position, le marais européen lui se tâte et certains États membres comme la Grèce ou l'Italie refusent de soutenir l'opposant à Maduro, Juan Guaido. Faute de position commune, une solution intermédiaire a toutefois été trouvée sous la forme d'un groupe de contact qui rassemble pour l'heure 8 États membres de l'UE et plusieurs pays d'Amérique latine. Il se réunira jeudi prochain en Uruguay et se donne 3 mois pour trouver une issue pacifique à la crise, loin des coups de menton d'un Donald Trump qui menace face caméra de faire intervenir l'armée américaine au Venezuela.
Et pour le moment, ce groupe de contact européen est accueilli favorablement par Nicolas Maduro. Une bonne initiative, a-t-il déclaré cette nuit. Pendant ce temps, l'opposant Juan Guaido, lui, prend déjà quelques décisions concernant l'aide humanitaire dans le pays. Le Venezuela est notamment privé de la moitié des médicaments d'urgence. Cette aide est en train d'être acheminée dans plusieurs pays voisins, Olivier Poujade.
L'opposition vénézuélienne a identifié la frontière colombienne comme le point d'entrée principal. Du matériel venant notamment des États-Unis, dont l'acheminement a été confirmé par le conseiller à la sécurité intérieure de Donald Trump ce week-end. L'objectif étant de mettre Nicolas Maduro et ses forces armées face à leurs responsabilités, explique Staline González, vice-président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, proche de Juan Guaido.
Le gouvernement sera face à un dilemme qui ne sera pas le nôtre. S'il ne laisse pas entrer la nourriture, les gens passeront la frontière. S'il la laisse entrer, c'est une victoire pour l'Assemblée. C'est pour ça qu'il faut régler de nombreux détails, que ce n'est pas aussi simple qu'on le souhaite. Une commission spéciale à l'aide humanitaire des partisans de Juan Guaido a recensé des volontaires et se rendra dans quelques heures de l'autre côté du pont de la ville de Cúcuta, en Colombie, pour aider à coordonner les opérations. La première livraison d'aide est annoncée pour la fin de semaine.
Olivier Poujade, envoyé spécial de France Culture à Caracas. D'aide humanitaire, il en est aussi et toujours question au Yémen, via le port d'Odeida, où une trêve fragile est censée être respectée depuis un mois par les belligérants. Il en sera peut-être question du Yémen aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Le pape François, en tout cas, doit aborder le sujet. Il est à Abu Dhabi depuis hier soir. Nous retrouvons notre envoyé spécial. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Le pape François, Mathilde, devient ainsi le premier chef de l'Église catholique à fouler le sol de la péninsule arabique, le berceau de l'islam.
Hormis la messe que le pape célébrait ce matin au réveil en tout petit comité, c'est une journée entièrement dédiée au dialogue avec l'islam. Le pape doit se rendre cet après-midi à la fastueuse mosquée d'Abu Dhabi, admirer sa salle de prière immense, ses lustres d'or et de cristaux, puis il prendra la parole lors d'une rencontre interreligieuse devant un parterre d'imams et aussi de rabbins. C'est le temps fort de ce voyage dans un pays qui se targue d'être vertueux en termes de tolérance religieuse. Les catholiques peuvent aller à la messe du moment qu'elle se tient dans des enceintes précises et fermées. Les Émirats répriment par ailleurs toute exploitation politique de la religion. C'est aussi à Abu Dhabi que siège le Conseil des sages musulmans, un cercle d'experts religieux présidé par le recteur de l'université Al-Azhar, le principal interlocuteur du pape dans le monde musulman. Le pape François, qui en est à son 5e voyage en terre musulmane, devrait, dans son discours attendu vers 15h, rejeter de nouveau la violence au nom de la religion et prôner la fraternité. Il doit aborder par ailleurs ce midi en privé, lors d'un entretien avec le prince héréditaire d'Abu Dhabi, la question du Yémen. Les Émirats y interviennent militairement. Hier, de Rome, il a exigé le respect des accords de trêve et l'acheminement de l'aide humanitaire pour la population affamée.
Merci Mathilde Imberti depuis Abu Dhabi ce matin pour France Culture.
8h06, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Y aura-t-il un référendum à l'issue du grand débat national?
D'après le journal du dimanche paru hier, Emmanuel Macron en tout cas étudie sérieusement cette hypothèse. Il pourrait se tenir ce référendum le 26 mai prochain, jour des élections européennes. Le chef de l'État y réfléchit et il est poussé par une partie de la majorité, comme le confirme le député La République En Marche du Val-d'Oise, Aurélien Taché.
On en parle et on est nombreux à penser que ce serait une bonne idée. Moi, je considère que après ce grand exercice démocratique qu'est le grand débat national, on pourrait, sur un certain nombre de sujets, et en particulier ceux qui sont relatifs à l'amélioration, à l'approfondissement de notre démocratie, au sujet autour de la citoyenneté, poser les questions aux Français pour savoir comment rendre notre pays plus démocratique.
Un référendum qui pourrait donc porter sur les institutions françaises, ce que regrette Philippe Juvin, eurodéputé Les Républicains.
Le référendum tel qu'il se prépare a vraiment le goût d'une carabistouille. En fait, on nous explique qu'on va tirer des leçons du grand débat et que ces leçons seront soumises à référendum. Et en même temps, on s'aperçoit que les questions sont déjà prêtes et ficelées. Le sujet aujourd'hui, c'est que les Français ne veulent pas savoir si il y a 10, 20, 30 ou 40 députés. Les Français veulent savoir si le pouvoir d'achat va être amélioré, si la sécurité va être assurée, si l'immigration va être contrôlée. Est-ce que, à votre avis, il va poser ces questions? Non, évidemment.
L'eurodéputé LR, Philippe Juvin avec Lucie Barbarin. Le président, lui, pourrait trancher sur l'organisation ou non de ce référendum d'ici la fin du mois. Aujourd'hui, lundi, Emmanuel Macron poursuit son tour de France pour le grand débat national. Il sera à Évry-Courcouronnes, dans l'Essonne, au sud de Paris. Et pour le moment, ce débat national n'apaise pas tout à fait la colère de certains gilets jaunes face aux violences policières. Hier, le président du syndicat étudiant, l'UNL, dit vouloir porter plainte contre le ministre de l'Intérieur. Louis Boyard aurait été blessé au pied ce week-end à Paris par les forces de l'ordre, dit-il. Alors que demain se profile une nouvelle journée de mobilisation, journée de grève, cette fois à l'appel initialement de la CGT. Des mobilisations qui s'organisent pour beaucoup via le réseau social Facebook. Il fête ses 15 ans aujourd'hui. Malgré les scandales à répétition sur l'utilisation des données personnelles notamment, le groupe Facebook va bien avec un bénéfice net qui a explosé l'an dernier, plus 18%. Fabrice Eppelboin, spécialiste des réseaux sociaux, explique ce succès par le nouvel algorithme de Facebook.
Jusqu'à il y a un an, il fonctionnait sur un modèle qui consistait à privilégier les pages, et c'est là où les médias étaient présents et se servaient de Facebook pour diffuser leur contenu. Et puis il y a un an, Mark Zuckerberg a décidé de changer l'algorithme de Facebook pour donner une priorité, cette fois-ci non plus aux pages, mais aux groupes. Et ça, les groupes, c'est quelque chose dont les médias sont totalement absents. C'est plutôt quelque chose qu'on utilise pour s'organiser. Donc c'est plutôt ce qui s'organisait, ce qui collaborait, ce qui échangeait autour de projets, qui a été favorisé. Et puis par ailleurs, il n'a pas privilégié les amis avec lesquels vous aviez marqué via Facebook des likes, mais il avait privilégié des amis dont vous étiez proches géographiquement. D'où l'émergence du phénomène gilet jaune, qui pendant longtemps a été constitué de gens qui avaient constitué des petits groupes, un peu pour pallier au recul du lien social dans ces zones périurbaines, et puis qui a privilégié votre voisin, qui avait le même problème que vous, les taxes ou les radars. Et ce changement d'algorithmie a déclenché des nouvelles dynamiques dans la société, parce que Facebook tient lieu d'espace social depuis bien longtemps. Ces gens-là ont trouvé dans Facebook des immenses réservoirs d'audience de gens qui eux-mêmes avaient trouvé dans Facebook un espace de liberté qui leur a été refusé en espace public et a fait émerger des nouveaux phénomènes, à commencer par les gilets jaunes, mais on en verra dans les années qui viennent tout un tas d'autres émergents.
Facebook, 15 ans, beaucoup de critiques, mais toujours plus d'amis. C'est aussi un article fouillé, argumenté sur notre site internet franceculture.fr. Les réseaux sociaux en question qui font donc émerger de nouveaux mouvements, nous l'avons compris. Ils servent également pour certains à fabriquer une réputation, en bien ou en mal, comme semble l'avoir subi l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Monsanto, déclare-t-il, la firme Monsanto a demandé à une officine belge de s'occuper de sa réputation. Le groupe Bayer Monsanto dément, mais ce n'est pas la première fois que de telles accusations sont lancées contre lui, Clotilde Ravel.
Recruter des personnes pour traquer tous les articles publiés au sujet du glyphosate, organiser une riposte à chaque contenu défavorable à la firme ou encore intimider des cibles via des articles de presse. Toutes ces pratiques révélées par les Monsanto Papers en 2017 font écho à ce que dénonce aujourd'hui Nicolas Hulot. Au mois de janvier déjà, une levée de boucliers avait suivi la diffusion d'une émission d'Envoyé spécial. Des utilisateurs souvent anonymes mettaient en cause la crédibilité des reportages et défendaient le glyphosate. Nous nous y attendions, avait réagi la rédaction d'Envoyé spécial. En effet, les Monsanto Papers avaient aussi révélé l'existence par le passé d'un programme baptisé Let Nothing Go, ne rien laisser passer, un programme pour attaquer les enquêtes journalistiques sérieuses sur les réseaux sociaux, écrit la rédaction. Mais alors, ce programme de contre-offensive médiatique existe-t-il toujours? Selon les informations du journal Le Monde, l'agence en charge du dispositif se contente de dire qu'un volet de Let Nothing Go est destiné à faire rectifier des informations inexactes ou imprécises sur Monsanto ou ses produits. De son côté, la directrice des magazines de l'information de France Télévisions dénonce une campagne de dénigrement d'une ampleur rarement vue. Et de conclure, personne à France 2 n'avait jamais vu un documentaire se faire attaquer de cette manière sur les réseaux sociaux, y compris par des confrères, avant même d'être diffusé.
Gérald Darmanin reste au gouvernement. Dans les colonnes du Parisien, le ministre de l'Action et des Comptes Publics met fin aux rumeurs sur son possible départ. Rumeurs lancées après le décès du maire de Tourcoing, Didier Drouard. Gérald Darmanin reste donc ministre et il conserve également sa place de premier adjoint à la mairie de Tourcoing, mais ne brique donc pas la place de maire. Un ancien député écologiste devant le tribunal correctionnel de Paris. Aujourd'hui, il s'agit de Denis Baupin qui a porté plainte pour diffamation contre Mediapart et France Inter. Ces deux médias avaient révélé en mai 2016 des témoignages de femmes accusant Denis Baupin d'agression sexuelle, des faits classés sans suite pour prescription. En bref, encore plus d'interventions et plus de violences. Les pompiers de Paris dévoilent leur bilan annuel pour 2018. Le nombre d'appels d'urgence a augmenté de 17%, plus 4% pour le nombre d'interventions, mais surtout, et cela peut paraître paradoxal, le nombre d'agressions envers les pompiers a augmenté de 60% en 2018. Nous en venons à ce témoignage qui éclaire le débat autour du retour possible de djihadistes français. Mélina Bouguedir, française, partie en Syrie en 2015, puis en Irak avec mari et enfant. Elle est emprisonnée aujourd'hui à Bagdad avec sa fille âgée de 2 ans. Mélina Bouguedir a accepté que ses autres enfants, âgés de 4, 6 et 8 ans, rentrent eux en France où ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Elle a rencontré Sophie Parmentier il y a quelques jours, notre consoeur de France Inter, et elle témoigne.
Je vais essayer de tenir. Mes enfants, je sais qu'ils vont bien. Je les aime beaucoup. Et j'espère que je vais bientôt les revoir. Qu'ils ne m'oublient pas. Voilà, moi, je pense toujours à eux. Et voilà, et ma famille, je leur fais confiance. Je sais que c'est des gens bien. Je sais qu'ils s'occuperont bien d'eux. Et voilà, qu'ils ne lâchent pas. Je vais essayer de rester endurante. Parce que c'est difficile. Apparemment, on ne veut pas nous récupérer, donc... Et si l'État peut au moins autoriser des appels, ce serait bien quand même. J'aimerais qu'il y ait plus de photos, plus de lettres, plus de choses, quoi. C'est trop compliqué.
Mélina Bouguedir, qui elle n'est pas détenue par les Kurdes en Syrie ou en Irak, mais elle a été arrêtée par le régime irakien. Elle attend son procès donc à Bagdad. Un reportage en longueur que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr puisque c'était le reportage de la rédaction de ce lundi matin. Et la pluie arriva par le nord-ouest. Ce lundi sera marqué par une nouvelle perturbation pluvieuse arrivée par la Bretagne et la Normandie donc. Elle va s'étendre à la mi-journée de l'Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France. Sur la partie est de la France, en revanche, les éclaircies seront belles mais fraîches. Comptez moins 3 degrés ce matin à Clermont-Ferrand, moins 1 à Besançon, 2 degrés à Lille et à Bordeaux, 3 à Paris et Lyon, 9 degrés à Nice.